Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Pour la première fois de l'histoire, le monde est confronté au même moment, à la même crise. C'est une chape de plomb qui s'abat sur la planète. Tous les gouvernements vont devoir lutter. Certains lutteront plus que d'autres. La communauté internationale apparaît bien inexistante face à une tragédie à laquelle le monde n'était pas préparé. Regard sur ce que révèle la crise sur le plan international et les leçons qui devront en être tirés. Nos invités, pour les raisons que vous connaissez, sont au téléphone. André Lezecruc-Pietri, directeur de la Joint European Disruptive Initiative. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Xavier Guillou, spécialiste de la prévention des crises, du pilotage des crises et de l'aide à la décision stratégique. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Il y aura sans doute un avant et un après-crise du Covid-19 dont l'ampleur stratégique est immense. Elle est une épreuve majeure pour les malades, les soignants, pour tous les gouvernants et nos sociétés. La pandémie, ainsi officiellement déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, se répand à grande vitesse, comme une vague qui semble devoir n'épargner aucun pays, avec pour logique que les premiers atteints sont les pays les plus connectés et que les autres n'y échapperont vraisemblablement pas. Question de quelques semaines. Rares sont les leaders politiques qui ont jamais eu à faire face à une pandémie et ses conséquences économiques, même si certains évoquent la crise financière de 2007-2009. Tous les gouvernements vont devoir lutter, certains plus que d'autres, je le disais en introduction, dans un contexte de grande inégalité des États face à l'épidémie. Quel regard portez-vous sur ce que le monde vit aujourd'hui? Qu'est-ce que révèle du monde la pandémie? Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce qui se passe depuis le début de la crise? Xavier Guillou.
Ce qui me frappe, c'est que en l'espace de 2 mois, cette mondialisation qui est porteuse de l'idée de progrès a été mise à genoux. On parle maintenant de confinement, on disserte sur le retour des frontières et puis bientôt, si on écoute certains politiques, on va reconstruire les murs de la peste, hein, comme à Marseille au moment de l'épidémie de peste. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est la première fois que nous vivons une situation de ce style-là. Je dirais que c'est peut-être la première fois depuis 70 ans, mais dans l'histoire, y compris du XXe siècle, nous avons eu quand même des vagues épidémiques comme la grippe espagnole. C'est peut-être ça qui tétanise un petit peu les opinions au niveau mondial, puisque c'est la seule référence que l'on a récemment. Bon, on a à peu près de l'ordre de 200 agents pathogènes qui en permanence, cherchent à terrasser notre vie humaine. Ce qui caractérise, à mon avis, la situation, c'est la surmédiatisation qui prévaut aujourd'hui et qui est liée à ce terme de globalisation que les anglo-saxons attribuent à ce que nous, on appelle la mondialisation et qui est l'interconnexion de tous nos systèmes de vie et nos systèmes d'information. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est-à-dire la caisse de résonance qui sous-tend, je dirais, l'ensemble de la vague épidémique au niveau mondial, est un démultiplicateur de crise et a tendance à emmener nos gouvernants dans des postures qui peuvent être de surréaction ou avec du reste l'utilisation de sémantiques qui sont assez parfois surprenantes, puisqu'on parle de guerre, on parle d'état d'urgence. Il n'y en a pas un seul qui utilise la même phraséologie pour caractériser la situation. Alors, ce qui m'impressionne aussi, c'est que ce terme de globalisation qu'on a utilisé ne signifie pas forcément uniformisation. Mm. Et on voit bien au travers de cette vague épidémique, les comportements, des grandes régions du monde ne sont pas les mêmes. On s'aperçoit que la dimension culturelle, j'irais même voir la dimension civilisationnelle quand on compare ce qui se passe en Asie, en Europe et même aux États-Unis, sont complètement différentes en termes d'approche du traitement de la situation, y compris même en termes de résilience et en termes de mode de représentation de la crise en tant que telle.
Alors on développera bien sûr cette question des comportements différents. André Lezecruc-Pietri, je me tourne vers vous avec la même question. Comment vous paraît ce qui se passe depuis le début de cette crise? Quel regard vous portez sur ce que le monde vit aujourd'hui?
Et je rejoins tout ce qui a été dit par Xavier Guillou, mais je rajouterai quelques points. Un, ce qui m'impressionne, c'est l'état de sidération, bien sûr, de nos sociétés, mais surtout de nos responsables politiques. On connaît tous la fameuse phrase « gouverner, c'est prévoir ». Et on se rend compte partout que l'état d'impréparation, alors c'est toujours plus facile après ou pendant la crise qu'avant, mais l'état d'impréparation est sidérant. Alors on parle toujours que cette crise serait un signe noir, ça ne l'est pas du tout. Je rappelle qu'il y a eu quand même beaucoup. D'abord, il y a eu les cas du SARS ou de la grippe aviaire. Il y a eu sa fameuse conférence de Bill Gates qui, en 2015, avertissait absolument de manière extrêmement précise sur ce qui se passe en ce moment même. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'était pas. Mais pour une raison qui est probablement au cœur de nos systèmes politiques, on ne s'y est pas du tout préparé. Et mon inquiétude, c'est qu'une des grandes conséquences, ça va être une défiance encore plus grande vis-à-vis de la puissance publique qu'elle n'était avant. Et un deuxième point qui est lié, c'est que, et là aussi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je rajouterai un angle qui est, on est vraiment dans un combat de système. Et d'ailleurs on voit bien à quel point aujourd'hui la Chine, par qui quand même le sujet est arrivé, parce que le système politique chinois a fait en sorte qu'on ait 4-6 semaines de retard à l'allumage. On ne sait pas ce qui se serait passé, mais le système a empêché que l'information aille vite. On sait aujourd'hui à quel point un jour est essentiel pour diminuer l'impact de cette crise. Mais c'est vraiment un combat de système. C'est-à-dire les systèmes qui réagissent différemment, qui ont une différente résilience, vont essayer chacun de montrer qu'ils sont d'une manière ou d'une autre supérieurs. Et enfin, dernière chose, c'est l'élément de rapidité. Pour moi, la caisse de résonance médiatique, elle est plus une conséquence. Ce qui différencie cette crise de toutes les précédentes, c'est que nous sommes aujourd'hui, pour la première fois quasiment dans l'histoire, depuis 20-30 ans, une véritable communauté humaine. Avant, on ne l'était pas. C'est-à-dire qu'à la fois de manière économique, une interconnexion, une interdépendance, ce que les anglo-saxons appellent les supply chains, donc les chaînes de valeur, qui fait que l'impact économique est absolument massif. Et deuxième chose, il y a aussi une interdépendance personnelle. Le secteur aérien est probablement un des plus touchés, il est réduit quasiment à néant aujourd'hui, mais regardez, tous les pays depuis 3 semaines essayent de rapatrier leurs ressortissants et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette grande famille humaine, elle est touchée en même temps. Et c'est ça qui fait que ce n'est plus 100 000 personnes, 50 000 personnes, 50 millions de personnes, mais c'est véritablement 7 milliards d'humains dont je crois aujourd'hui. À cette heure, 3 milliards sont confinés. C'est fascinant.
Alors, on a vraiment le sentiment que le monde, finalement, a été conçu pour une situation sans tragédie. Alors, l'hebdomadaire britannique The Economist, dans une édition récente, évoquait 3 facteurs importants dans la lutte contre la pandémie et sa réussite. Je vais un petit peu plus loin que ce que vient de dire à la fois Xavier Guillou et André Lezecruc-Pietri par rapport à la question de défiance. Ces 3 facteurs, c'est d'abord l'attitude des dirigeants face à l'incertitude, la structure et la compétence des systèmes de santé, et enfin la confiance que suscitent ou pas les gouvernants. Un commentaire, Xavier Guillou, André Lezecruc-Pietri.
Oui, c'est tout à fait exact. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent derrière cette vague épidémique. D'abord, un, c'est le retrait des États qui ont tout confié au multilatéral aux grandes organisations comme l'ONU, l'OMS, des plateformes de concertation comme le G7, le G20, etc., sans pour autant qu'il y ait des vraies stratégies derrière, ou préventives, ou d'action adaptées. Hein. On est dans la discussion, la parlotte. Et progressivement, je dirais, la question de la souveraineté s'est diluée dans ce concept de mondialisation, qui cachait en fait derrière, comme vous l'avez dit, une construction d'un monde sans tragédie, mais qui a masqué une utopie qui est celle de pouvoir construire un bien-être basé sur une forme de cyber-mercantilité au niveau mondial et sur une financiarisation qu'on ne pouvait plus réguler. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que cette pandémie stoppe d'un seul coup toute cette utopie qui était très prégnante, notamment dans les pays de l'hémisphère nord. Il faudrait bien faire une distinction entre ce qui se passe au niveau de l'hémisphère nord, très très concerné par cette mondialisation, globalisation, ce qui se passe dans l'hémisphère sud, et très décalé par rapport à notre idée du progrès et du bien-être, et puis ce qui se passe dans la tête des grandes entreprises mondiales qui vivent de cette globalisation et de cette financiarisation, et qui profitent, je dirais, de cette absence aujourd'hui de la légitimité politique des États au niveau international, et qui, à mon avis, seront les premières victimes de cette catastrophe qui est en train de se passer au niveau international.
André Lezecruc-Pietri, vous partagez ?
Écoutez, j'ai une vision un petit peu différente. Effectivement, je pense qu'on pourrait reprocher beaucoup de choses à la financiarisation du monde, mais là, je crois que le vrai sujet, c'est qu'on a peut-être eu une vision assez simpliste, finalement, de l'organisation de nos systèmes, que ce soit nationaux, européens ou internationaux, à titre d'exemple, et qui ne sont peut-être pas adaptés à la complexité de ce monde où, en fait, il y a 7, bientôt 8 milliards de personnes interconnectées avec des flux, des échanges permanents, que ce soit informatique ou que ce soit physique. À titre d'exemple, regardez ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Je pense qu'on est en train de voir la fin du projet européen tel qu'il était, pas la fin du projet européen en tant que tel, mais en tout cas de la construction européenne en tant que telle, parce qu'on a peut-être mal lu ce fameux concept de subsidiarité, où en fait aujourd'hui on ne le voit que comme une espèce de délégation, alors qu'on se rend compte que dans le monde et dans les crises comme cette pandémie, on a à la fois besoin d'outils d'anticipation à long terme, et aujourd'hui c'est vraiment la défaillance majeure de tous nos gouvernants. On vit quasiment au jour le jour, et les briefings quotidiens du ministre de la Santé ou du directeur de la Santé, pour moi, sont véritablement emblématiques de ça. On vit de 24 heures en 24 heures, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de long terme. Et d'un autre côté, on a besoin d'immensément d'agilité. Et là aussi, on se rend compte, on voit que l'Union européenne reporte à 15 jours des décisions fondamentales, que la Banque centrale européenne doit s'y reprendre à deux fois pour viser plus ou moins juste, et que... vous avez ces 20 dirigeants, pardonnez-moi, assez isolés dans leur petite salle de vidéoconférence. Pour moi, l'image est terrifiante d'un système qui est aujourd'hui à bout de souffle.
Un système à bout de souffle. Alors, je vais revenir avec vous, André Lezocque-Pietri, sur une question. Vous êtes grand spécialiste de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle peut apporter, l'intelligence artificielle, dans cette crise ?
Écoutez, l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui très, très, très à la mode parce que c'est, bon, d'abord, il y a ce concept d'artificiel, ce concept de singularité où peut-être un jour les machines dépasseront les capacités humaines, mais surtout ce qu'elle peut, elle aurait pu et elle devrait apporter dans le futur, c'est justement cette capacité de modéliser l'avenir, cette fameuse capacité d'anticipation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est notamment immédiatement utilisable pour distinguer dans des systèmes d'information très complexes, ou ce que disait Xavier Guillou tout à l'heure, c'est-à-dire où on a cette caisse de résonance médiatique, où les informations viennent quasiment à la seconde. Nous sommes clairement dans un monde qui est aujourd'hui trop compliqué, même pour le plus intelligent d'entre nous, pour paraphraser une phrase célèbre, et où on a besoin d'augmenter les capacités humaines, parce qu'on est tout simplement, sinon, toujours en réaction. Et aujourd'hui, c'est ça qui, je crois, est là. Le grand défi pour le système politique, c'est de montrer que nous sommes à nouveau, en tant que communauté humaine, en contrôle de ce qui se passe. Et c'est là où l'IA peut être essentielle, parce qu'elle permet de distinguer à la fois les signaux faibles, c'est-à-dire de voir des pandémies qui apparaissent, alors qu'on aurait du mal à les distinguer dans un système de santé où les remontées d'informations sont plus longues, où on arrive à coordonner des systèmes extrêmement complexes, par exemple pour suivre l'évolution d'une maladie. On l'a bien vu que très vite, par exemple, la France n'a plus voulu suivre les fameux cas de contamination parce que ça devenait complexe. Et c'est là où la technologie peut être utile, non pas en remplacement, mais vraiment pour appuyer les décisions politiques et les décisions humaines. Et c'est là où c'est clé, notamment pour l'Europe, d'être en tête là-dessus, parce que c'est pas juste une question de compétitivité économique, c'est véritablement une question de survie du système.
Alors, le temps passe et nous n'avons que 20 minutes dans ce contexte de coronavirus avec un regroupement des grilles de RFI et géopolitique réduit de la moitié. Xavier Guillou, si on devait résumer un peu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, quelles seraient, d'après vous, les leçons à tirer et les priorités ?
Je dirais qu'il y en a trois à peu près. La première, je rejoins le propos précédent, nous avons aujourd'hui des technologies qui nous permettent de pouvoir aller très très vite sur du préventif. Quand je vois par exemple avec quelle vitesse les scientifiques ont été capables de séquencer le virus, quels moyens par exemple en Corée ou à Singapour, ils ont été capables de pouvoir agir sur la population, etc. Je dirais, on n'est pas dans une crise de moyens, on est dans une crise de posture. Ça, c'est mon deuxième point. Je pense que nous avons une crise du politique qui émerge au travers de cette pandémie, une crise du politique et une crise de la confiance qui s'exprime très différemment selon les continents. On dit par exemple qu'en Asie, ils sont soumis, ce qui est faux. Ils ont une forme de civisme collectif qui est impressionnant, qui s'exprime au travers de cette crise. On verra aux États-Unis, les États-Unis ont une capacité de résilience très très forte. Ce qui me préoccupe le plus, ça sera mon troisième point, c'est la faiblesse de certaines parties du monde par rapport à cet événement. L'Union européenne, pour moi, est dans une situation catastrophique et je rejoins le propos d'André là-dessus. Je pense que nous allons vivre les derniers moments de l'Union européenne, pas forcément de l'Europe, mais les derniers moments de l'Union européenne, au travers de cette affaire-là. Et puis ce qui se passe, et ce dont on ne parle pas, notamment sur le continent africain, sur l'hémisphère sud, qui commence à rentrer dans cette vague pandémique. Là, nous avons eu un doublement, je dirais, des contaminations, parce que l'Inde a décidé de se confiner. On est passé de 1,3 milliard d'individus confinés à 3 milliards d'un seul coup. Si demain, l'ensemble de l'hémisphère sud rentre de façon un peu plus brutale dans cette vague pandémique, on risque d'avoir d'autres scénarios qui s'imprimeront. Donc je pense qu'on a on a en effet des points extrêmement intéressants avec toute cette révolution technologique, ces interconnexions, cette logique planétaire, de prise de conscience à laquelle on assiste. Mais on a des faiblesses sur le plan politique. On a un corps politique qui n'est pas à la hauteur, je dirais, globalement, de la situation, avec des réactions très différentes selon les continents. Et surtout, on a des angles morts qui ne sont pas encore appréhendés, qui ne sont pas traités et qui pourraient modifier la nature et de cette catastrophe sanitaire qui est en train de passer. Pour moi, ce n'est pas un signe noir. Je suis entièrement d'accord. La pandémie fait partie de tous les plans stratégiques et des risques majeurs que tous les États ont à assumer. On avait avec le SARS à Toronto, et on a fait un retour d'expérience sur la question. On avait tous les éléments pour pouvoir caler des postures sur les plans politiques qui étaient adaptées à la situation. Tout ça n'a pas été pris en compte. Et donc, du coup, on va se retrouver non pas simplement à une crise sanitaire, mais à une catastrophe économique, sociale et sociétale qui sera, à mon avis, d'une grande ampleur. Et je crains que nous ayons, derrière les événements sanitaires, une crise financière de très, très, très grande ampleur, et derrière des cortèges de millions de chômeurs et des crises politiques et sociétales que l'on n'appréhende pas aujourd'hui et qui seront, à mon avis, beaucoup plus graves que la vague pandémique.
André Lezecruc-Pietri, très rapidement, guise de conclusion.
Donc, très rapidement, je ne rajouterai rien à ce tableau noir que, malheureusement, je partage. Je verrai deux choses. Une, il faut absolument, notamment pour les démocraties, reprendre cette capacité d'anticiper et d'être agile. Aujourd'hui, nous réagissons et nous sommes d'une inagilité phénoménale. Les systèmes autoritaires, on le voit avec le système d'influence de la Chine qui est à plein régime en ce moment, vont en profiter. Donc c'est une question mortelle pour les démocraties, notamment européennes. Et la deuxième chose, c'est le personnel politique. Nous ne pouvons pas avoir des politiques qui s'appuient sur ces comités scientifiques. Il faut des comités scientifiques, bien entendu, mais il faut que les politiques aient dans leur culture la connaissance. Sinon, on va se retrouver également dans un système où ça va être des comités qui vont prendre des décisions éminemment politiques et on va se retrouver dans un enjeu démocratique phénoménal. Donc là, c'est la culture aujourd'hui que je vois, notamment en France et au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on a finalement assez peu de gens qui maîtrisent ce que la technologie, ce que les sciences, ce que les risques biologiques peuvent apporter. Et ça, c'est un grand contraste par rapport à d'autres pays du monde. Et je pense que là où on va voir vraiment une compétition également sur les systèmes, donc on a vraiment besoin d'une réinvention assez profonde, je crains.
Bon, je vois bien que nous aurions eu bien besoin de 20 minutes de plus pour développer tout ça. Merci en tout cas, André Lezecruc-Pietri. Je rappelle que vous êtes directeur de la Joint European Disruptive Initiative et Xavier Guillou, spécialiste de la prévention des risques, du pilotage des crises et de l'aide à la décision. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte, Tania Tsikounas et Louise Kalédek. Demain, nous demanderons à Bertrand Badi et Jérôme Pellistrandi en quoi la crise du Covid-19 marque un tournant géopolitique. Rendez-vous à 19h40 en temps universel. À demain.
Musique du monde.